Voilà. Jocelyne et Vito, venez aussi. Et voilà. Tout le monde, on veut participer à cette prière, mais voilà, on est une délégation ici pour l'entourer et la bénir. Alors, ce que je demanderais, c'est, on va demander aux parents de prier en premier, de bénir leur enfant et tout ça. Et ensuite, j'aurai la joie de prendre Lucie dans les bras aussi et de continuer ça. Et la famille se joint à nous pour ce temps de joie. Voilà, les grands-parents. On est tellement, tellement reconnaissants. Donc, les amis, voilà, je vous laisse la parole.
Merci, Luc.
Seigneur, moi, je voulais te... Seigneur, je tiens à te remercier du fond du cœur pour ce cadeau que tu nous as fait, ce cadeau qu'on a attendu toutes ces années. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de manifester ton amour à l'égard de cet enfant, à l'égard de Lucie. Merci de nous donner l'occasion de manifester tous les fruits de l'Esprit. Merci de nous donner l'occasion, Seigneur, de la mettre sur le chemin. Merci de nous donner l'occasion, Seigneur, de l'amener à te choisir le jour où ça viendra, Seigneur. Merci de nous donner la force de la guider, de l'influencer de la bonne façon, de lui apprendre à prier, Seigneur, de lui apprendre à te parler, à te faire confiance. Seigneur, nous n'avons qu'un mot à la bouche, c'est merci. Merci pour tes largesses, merci pour toutes les circonstances qui nous ont amenés à accueillir Lucie dans notre famille. Merci, Seigneur. Sois béni. Et nous appelons, Seigneur, la bénédiction sur Lucie. Qu'elle rayonne pour toi, Seigneur, qu'elle répande ta joie, qu'elle soit une manifestation de ta joie, qu'elle soit une manifestation de ta grâce, Seigneur, qu'elle soit une manifestation de ton amour. Partout où elle va, partout où elle ira, justement, qu'on puisse dire, comme disait Sandro tout à l'heure, qu'on puisse voir la foi qui sera en elle, qu'on puisse voir qu'elle vient de toi, Seigneur. Merci, Seigneur.
Amen. Seigneur, je veux te remercier pour la grâce que tu nous fais de nous avoir confié Lucie. C'est vrai que nous l'avons attendue longtemps, très longtemps. Enfin, pour nous, c'était très long puisque on a attendu plus de 8 ans pour la voir se joindre à nous. Et c'est une guerrière. Donc, merci, Seigneur, pour elle. Merci pour la force déjà qu'elle a manifester pour naître et on te enfin, vraiment mon cœur est rempli déborde de reconnaissance pour cette grâce et cette joie qu'elle est pour nous. Je prie que tu puisses vraiment nous conduire et nous guider. Que tu puisses nous conduire, nous guider pour l'aider à bien grandir, à reconnaître ta seigneurie, à reconnaître ta présence dans notre foyer, qu'elle puisse aussi nous prendre pour exemple. Et pour ça, nous te demandons ta grâce, ta bienveillance, ta force, Seigneur. Amen.
Aïe, 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 Lucie, oui, tant attendu, tu as été tant attendu, tu ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais tu es déjà ce que le Seigneur a prévu que tu sois. Tu es comme un parfum. Tu es comme un parfum avec des notes fortes et épicées. Avec aussi des effluves plus subtiles, nuancées et suaves. Et je déclare sur ta vie ce que j'ai ressenti. Dès les premiers instants, regard vif et acéré, regard perçant, un regard acéré sur les choses, un regard qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui va en profondeur derrière ce qui est caché pour chercher la vérité, parce que tu es attiré par ce qui est vrai. Tu es attiré par ce qui est vrai et tu ne t'en laisseras pas compter. On ne va pas te rouler dans la farine facilement. Que le Seigneur soit ta lumière tous les jours de ta vie. Amen.
Amen.
Ah oui. Dans ton caractère, ce que j'avais ressenti, c'est une détermination forte, perspicacité, la joie surabondante. Perspicacité, déterminée.
Lucie est un grand cadeau. Je prie tout simplement qu'elle grandisse en sagesse et en grâce devant toi, Seigneur, et devant les hommes. Je prie aussi, Seigneur, que tous les dons, tous les talents que tu as mis en elle servent à l'édification de ton royaume. Je prie que la vie de cette petite fille te glorifie, Seigneur. Qu'elle te serve avec passion, qu'elle choisisse pour idéal de te servir, Seigneur. Que cette petite lumière, Seigneur, te serve avec passion, avec passion, avec passion, Seigneur. Merci pour tes bontés, merci pour tes compassions, Père, au travers de ce don qu'est Lucie. Merci.
Seigneur, nous accueillons Lucie dans l'église, nous t'accueillons Lucie, nous te disons bienvenue dans la famille de Dieu, que tu sois plantée dans la maison d'Adonai pour fleurir pleinement. Et Seigneur, nous entendons, nous te bénissons maintenant Lucie, nous appelons la grâce de Dieu, la sagesse, la paix, le shalom, la grâce sur ta vie, les corps, âme, esprit, tu es au bénéfice de l'alliance du Seigneur, et nous appelons sur ta vie les projets préparés d'avance de Dieu, la destinée de salut et de grâce pour le monde, au nom de Jésus. Et Seigneur, nous te prions pour les parents, nous prions pour Guillaume, pour Anne-Pascale, tu leur as donné la persévérance de la foi, et je crois que Seigneur, tu gardes le bon combat, les yeux fixés sur toi, et une grande vision pour leur enfant. Seigneur, que rien ne diminue cette vision, Seigneur. Alléluia. Nous te prions pour un alignement avec ton cœur et tes pensées pour Lucie, Seigneur. Tu leur donnes le courage du contre-courant pour leur fille, pour leur éducation, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te louons, Jésus, et nous te bénissons. Alléluia.
Petite Lucie, les mots que j'avais pour toi, c'est messagère de paix. Tu es à l'ombre de la main du Tout-Puissant. Et cette ombre, le Père a choisi déjà qu'elle se concrétise par Guillaume et Anne-Pascale, tes chers parents, par tes grands-parents et par cette famille que nous représentons. Mais que la sécurité d'en haut est ce qui t'accompagne dès maintenant déjà. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, à la sécurité du Tout-Puissant, du El Shaddai. Et sois, deviens qui tu es, petite Lucie. Et merci, papa, tu fais de nous une famille. Et tu nous donnes cette grâce de nous tenir ensemble par ta grâce et ton alliance. Et merci, Seigneur, pour la famille que tu nous donnes d'être. Au nom de Jésus.
Alors, hier, j'ai vraiment été poussée à prendre un temps pour toi, Lucie. Alors j'ai écrit ce que le Seigneur m'a dit, je vous le soumets les parents bien sûr, mais voilà ce que le Seigneur m'a dit pour toi ma chérie. Alors Lucie, nous savons que ton nom, ton prénom c'est Lumière. Et tu sais ce que j'ai vu comme image? Des lucioles. Et les lucioles ça brille dans la nuit. Et le Seigneur me disait, tu portes bien vraiment ton prénom. Les personnes seront intriguées par ta lumière. Parce que tu seras rayonnante. Tu as à recevoir le don de sagesse et le don d'un esprit de réconciliation. Tu vas apporter la paix. Et tu recevras des paroles inspirées Et ces paroles inspirées chasseront la tristesse sur les personnes. Et tu sais, tu as même reçu un verset favori dans Matthieu 11, 30. Et je vais te le lire, parce qu'il est vraiment... Ce n'est pas un poids, c'est quelque chose de merveilleux ce que tu vas vivre. Venez auprès de moi, c'est ce que tu diras aux personnes. Venez auprès de moi, vous tous, qui portez des charges très lourdes et qui êtes très fatigués. Et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous, sur toi, Lucie, est facile à porter. Ce que je te donne à porter est léger. Et les personnes seront, comme je viens de dire, attirées vers toi. Ils viendront vers toi et pourront déposer le fardeau. Cet esprit de réconciliation, cet esprit de sagesse, cet esprit de paix attireront les personnes. Elles vont se réjouir de te voir à l'œuvre, ma puce, même si tu es petite. Bientôt, bientôt.
Alléluia. Beaucoup de paix, beaucoup de lumière, mais en même temps, c'est ce que j'ai vu avec elle, et cette grande épée flamboyante de lumière à la main. Alléluia. Je crois qu'effectivement, c'est une guerrière. Et elle peut apporter cette paix parce qu'elle devra délivrer, elle devra délier des liens, les enlever. Mais en même temps, alors qu'elle délivre, elle apporte les gens près du Seigneur. C'est comme quand Jésus a chassé les gens du temple. Au même moment, les gens ne voyaient pas la colère, mais ils voyaient la guérison couler parce que les boiteux, les malades s'approchaient. Et il y a cette capacité à aller de l'avant, à délier les liens, à trancher ce qui fait mal et à libérer pour que les gens puissent rentrer dans la paix. Papa, on veut bénir Lucie, on veut bénir son papa, sa maman, Guillaume, Anne-Pascal, les grands-parents qui sont là et on prie pour la bénédiction qui coule de génération en génération, afin qu'un héritage puissant soit donné à toute cette famille. Là, ils ont été souvent comme sans terre, à droite et à gauche. Il y a un héritage puissant que tu veux leur donner et on veut libérer cet héritage pour toute la famille dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, simplement, pendant que Luc, tout à l'heure, choisissait ce passage du Nouveau Testament, Siméon dans le temple, je voudrais simplement remarquer que les parents viennent, et les grands-parents aussi, pour accompagner Lucie et la consacrer à l'Éternel. Mais quand Siméon a vu Jésus, il n'a pas vu un bébé, il a vu le Sauveur du monde. Il a vu l'appel que ce bébé avait sur sa vie. Est-ce que nous voulons... regardez aujourd'hui non pas un bébé impuissant, un bébé qui ne peut pas faire grand-chose puisqu'il ne sait pas parler encore, il ne sait pas marcher. Et on pourrait dire qu'il y a une limitation, mais pour Dieu il n'y a pas de limitation. Il y a un appel de Dieu sur sa vie et cet appel va se concrétiser. Et nous disons amen à tout ce qui a été dit, mais nous disons et nous accueillons tout ce qui n'a pas encore été dit. Parce que Lucie, tu as un rôle à jouer sur cette terre, tu as une mission à remplir et tu as un appel particulier de la part du Seigneur. Et nous délions aujourd'hui cet appel au nom de Jésus. Va au bout des choses, écoute Dieu, soumets-toi à la voix de Dieu et sois béni et surtout sois en bénédiction pour tous ceux qui te verront et t'entoureront, mais aussi tous ceux qui auront besoin d'entendre la voix de Dieu au travers de toi. Alors nous ne voyons pas un bébé, mais nous voyons ce que Dieu voit au travers de Lucie aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.
Moi, je voudrais juste vous bénir, Guillaume et Anne-Pascal, pour l'amour que vous vous portez. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux. Il peut y avoir des palais où il n'y a pas d'amour. Il peut y avoir des petits nids où il y a tellement d'amour que, voilà, pour Lucie, ce sera l'atmosphère précieuse dans laquelle elle va grandir et vraiment qu'elle soit imprégnée par l'amour que vous vous portez. Continuez à vous aimer tous les trois. Et puis, voilà. Et nous vous aimons très fort.
Voilà, tu voulais rajouter ?
Je voulais rappeler les paroles prophétiques qui ont déjà été annoncées pour toi, ma Lucie. Que ta joie et ta créativité vont rendre le diable fou et que tu portes en toi la guérison pour les nations francophones. Amen. Merci Seigneur.
Amen. Merci Seigneur pour la princesse. On peut applaudir vraiment Jésus et voilà.
Merci. Ouais. Si tu veux bien, sinon je le cherche. Alors pour ceux qui se souviennent, j'ai été le cobaye au tout début pour les 10 minutes et ça remonte à il y a plus d'un an, non ? 2 ans déjà. Et à l'époque, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui se souviennent de ce que j'avais parlé. Je l'ai rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'avais une présidence, il me semble, que j'avais parlé de la dîme. J'avais parlé de la dîme parce que j'avais, peu de temps avant, eu un changement de mentalité, plus ou moins à ce niveau-là, et que j'avais compris que, au final, toutes les richesses qu'on possède, c'est pas les nôtres, c'est Dieu qui possède tout, hein, c'est lui qui a tout créé. C'est Dieu qui possède tout et qui nous les donne. Et au final, quand il nous demande de donner notre dîme, ce qui représente 10% de notre salaire mensuel, annuel ou journalier, suivant le travail qu'on fait, en fait, il nous demande simplement de lui rendre 10% de ce que lui nous donne. Et voilà, ça, enfin pour moi en tout cas, ça avait changé ma manière de penser et de donner ma dîme surtout. Et du coup, je vais simplement reprendre une petite étude que j'ai eu l'occasion de faire un matin là, il y a quelques temps, qui reprend un petit peu le même principe. Normalement, vous devriez comprendre pourquoi. On va commencer par lire Jacques 4, 14. Là où Jacques nous dit que, au final, notre vie sur la terre, c'est juste un claquement de doigts, qu'on est juste une petite fumée qui passe et qui disparaît en un instant. Au final, on représente plus ou moins pas grand-chose en temps sur la Terre. Donc, avec le peu de temps qu'on a, il faudrait qu'on soit, en étant sur la Terre, les gens qui savent qu'on a une éternité après et qu'on est là pour investir et pour essayer de sauver, de parler aux gens de la bonne nouvelle. On a une mission, on sait qu'on a une mission, donc il faut vraiment qu'on soit les gens qui organisent leur temps au maximum et au mieux possible pour arriver à remplir cette mission. Les autres sont là, voilà, on va profiter de ce temps pour faire la fête et profiter de notre vie et tout, mais nous on a une mission. Et il faut vraiment qu'on arrive à organiser ce temps pour essayer au mieux de remplir cette mission. Aujourd'hui, on a beaucoup de stars et de personnes connues sur lesquelles on prend les exemples. Et il faut qu'on place vraiment à la première place, il faut vraiment que notre première étoile, ce soit Jésus. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans vraiment tous ces évangiles, chacun de ses disciples ont noté que Jésus savait prendre du temps tout seul. Okay ? Il était sur terre, il savait qu'il était là pour mourir, pour effacer les, enfin pour prendre sur lui tous nos péchés, mais il prenait quand même du temps tout seul. Et pour être honnête, moi aujourd'hui, je me disais tout le temps, c'est ma nature humaine qui me dit ouais, j'en ai marre des autres, je vais me mettre de côté maintenant, je prends mon temps tout seul, je me mets à part, je vais comme excuse aller lire la Bible, je vais m'isoler dans mon truc et puis parler à personne. Mauvaise manière, mauvaise raison. Jésus était un expert pour fixer des limites dans son temps et organiser son temps. Dans Luc 5, par exemple, Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Dans Marc 1,35, très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se levait et sortait de la maison pour aller hors de la ville, dans un endroit isolé, pour prier. Dans Matthieu, lui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En premier, dans notre organisation de notre emploi du temps, il faut qu'on place notre temps avec Dieu, notre temps de prière et notre temps d'étude de la parole. Et ensuite, on peut rajouter les temps de famille et les temps de boulot et les temps professionnels et personnels. Il faut qu'on soit capable de donner la dîme de notre temps à Dieu. Le temps appartient à Dieu, c'est lui qui l'a créé. Et il faut vraiment que dès qu'on reçoit notre salaire de temps, qu'on mette tout de suite les 10%, on les prévoit à Dieu et on les sort de notre emploi du temps et que tout le reste ensuite vienne par après. Il faut que tout le reste soit secondaire à ce premier temps. Ouais, il faut vraiment qu'on sache prendre exemple sur Jésus, quoi, parce que lui savait comment maîtriser son emploi du temps et il n'hésitait pas à mettre fin à des, même quand tout le monde le cherchait, après avoir fait son miracle de multiplication des pains et des poissons, il a pris son temps le lendemain pour aller s'isoler et les disciples l'ont cherché pendant je ne sais pas combien de temps, c'est peut-être pas noté dans la Bible ou j'ai pas fait gaffe, mais j'imagine qu'ils ont dû le chercher longtemps s'il était sorti de la ville et qu'il s'était mis dans un endroit isolé pour que personne ne le trouve. Donc voilà, je sais pas si ça a duré 10 minutes, mais sachons donner la dîme de notre temps et vraiment quand on fait notre emploi du temps, prévoir en premier ce temps pour Jésus et faire découler la suite par après. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos emplois du temps, dans un monde où tout va vite et avec Internet, on fait un clic, on a tout de suite. Et c'est hyper rapide de... Ok, j'ai 5 minutes, je vais sur Facebook ou je vais regarder une vidéo sur YouTube. C'est vraiment trop simple de faire partir son esprit ailleurs. Il faut vraiment qu'on arrive à faire ça. Alors, pour vous donner un exemple, je galère un petit peu, mais parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à se lever le matin. Mais je me lève 3 quarts d'heure avant mon réveil habituel. J'essaye de me lever 3 quarts d'heure avant mon réveil habituel pour avoir le temps, justement, parce que c'est le matin où on est le plus tranquille, au final. Enfin, pour ceux qui ont une famille, des enfants, ils le savent. C'est le matin quand personne n'est levé, ou le soir quand on a couché tout le monde. Mais le soir, on est fatigué souvent, et puis on a plus envie d'aller se poser, et de se reposer de sa journée. Et vraiment, honnêtement, j'ai vu un changement dans ma façon de travailler. Et dans ma façon d'être aussi. Je vous avais donné déjà un témoignage à l'époque où j'avais commencé à donner ma dîme. Avant, j'avais pas de travail, j'avais pas de, je sais plus maintenant, j'avais plus une petite liste. Et au final, quand j'avais commencé à donner ma dîme, toutes ces choses-là s'étaient débloquées. J'avais reçu mon CDI, j'avais rencontré une super dame qui est devenue ma femme par après. Vraiment, tout s'était débloqué. Et là, je peux vous dire qu'en en ayant pris cette décision de placer cette dîme en premier de mon temps, je vois des changements et une efficacité au niveau du travail. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup d'efforts, forcément. Je reste humain et tout ça, mais il y a vraiment un changement. Donc je vous encourage vraiment, pour ceux qui n'arrivent pas à s'autodiscipliner, à se lever plus tôt le matin, mais vraiment à choisir un moment. Il faut décider et rester constant. Choisir un moment dans vos journées, dans vos semaines, peu importe. Et toujours rester constant et ne pas vous dire oh, « je suis fatigué, je ferai demain » ou quoi. Voilà. Merci.
Ça, c'est excellent. Parce que c'est vrai que plus on va, et avec les médias, on a une vitrine d'un tas de choses qui nous disent « oh ben écoute, je prends juste un petit moment, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard ». Et voilà, donc prenons cette décision, justement. Et le matin, il n'y a rien de tel.
Qu'on est beau quand on est italien. Ok. Ciao. Buongiorno, signorina. Alors, comme on a été invité à exorcer notre foi en Dieu et à mettre nos dîmes et nos offrandes, je propose qu'on passe à l'action pratique. Je ne sais pas si ça avait été prévu. Tu veux le faire après ?
Alléluia. Désolé, je t'ai coupé l'herbe sous les pieds. Jésus, couliens ma queue de ma saquette, qui était ma chante, qui était ma chante. Ok, on va faire un petit voyage ce matin. En fait, c'est un début de message que j'avais déjà programmé il y a quelques mois en arrière, et puis ça... Je ne sais plus pourquoi, ça n'a pas pu être possible ce jour-là. Et ça a été décalé à aujourd'hui. Ça tombe bien. On va faire un petit détour dans la parole et on va lire quelques versets et on verra pourquoi ça ne tombe pas si mal que ça. Alors il y a un verset qu'on a déjà vu. Donc je vais juste le relire, celui-là. C'est dans Luc 2, verset 32. Et j'ai bien aimé la version de Darby. Il parlait de Jésus, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Une lumière pour éclairer les nations. J'ai bien aimé le mot révélation. Parce que c'est comme si Dieu... On ne peut pas éclairer et révéler les nations si Jésus n'est pas là. On voit les nations, on voit quelque chose, mais il ne peut pas y avoir la vraie révélation des nations en dehors de Jésus, sans cette lumière. On va revenir sur Nombre 6, versets 22 et 27. Alors, ce serait cool si j'avais des lecteurs, comme ça m'éviterait de tout lire. Est-ce que quelqu'un veut lire Nombre 6, 22, 27 au hasard? Sinon, je nomme. Je nomme? Ok. Alain, veux-tu lire Nombre 6, 22, 27? Passage, on va aller dans Luc 9. je dirais que je voudrais lire, on va juste lire le 25-29, mais donc ce passage qui est 29 à 36, mais j'aimerais juste qu'on puisse lire le verset 29. Et on va retrouver tout doucement un petit thème qui est un peu commun à tout ça. Manuela.
Merci. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur.
La version Darby nous dit que il resplendissait comme un éclair. On va prendre un autre passage. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Saint-Luc, es-tu prêt ? 8.
Jésus leur parla de nouveau et dit : Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Merci. Je pense que tout doucement on commence à voir où on veut aller. Jean 12, verset 36. Quelqu'un a préparé Jean 12, verset 36. Jean 12, verset 36.
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez fils de lumière. Jésus dit ces choses, il s'en allait et se cachait de devant eux.
Merci. Je pense que c'est important de lire les versets même si on les voit derrière. J'aimerais Éphésiens 5, verset 8. Quelqu'un a-t-il une autre Bible ? Éphésiens 5, verset 8. Oui, Werner, je suis sûr qu'il a ça.
Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière.
L'autre passage, l'autre traduction dit « Vous étiez ténèbres et vous êtes lumière. » Ok. On va s'arrêter là, peut-être là, parce qu'il y en a déjà pas mal. Et je vais encore en lire en 1, dans Jean 1. 1 à 14. Je vais laisser la traduction qui est second ou Darby qui se ressemble relativement proche, et puis je vais lire certains passages dans la traduction Chouraki qui m'a bien parlé. Parce que le terme au commencement, le mot commencement ici, c'est pas juste le début de quelque chose. C'est comme si c'était le principe qui soutient toute chose. C'est l'élément fondateur, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que juste un mot qui dit le début de quelque chose. C'est quelque chose qui soutient, qui est en tête, ce support, ce principe de toute chose, lui le logos ou le verbe. Souvent c'est traduit par parole, mais le verbe parle d'action. Lui pour Elohim, mais le logos, lui Elohim, donc c'est lui. Lui, le principe pour Dieu. Verset 2. Tout devient par lui. Verset 3. Tout devient par lui. Hors de lui, rien de ce qui advient ne devient. Verset 4. En lui, la vie, la lumière des hommes. En lui, la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et c'est un homme, un envoyé d'Elohim, son nom, Johann, il vient pour rendre témoignage, pour témoigner de la lumière, afin que tout s'adhère à lui. Il n'était pas la lumière, mais celui qui témoigne pour la lumière vraie, qui éclaire tout homme venant dans l'univers. Lui dans l'univers, et l'univers est engendré par lui, et l'univers ne l'a pas connu. Ok, on va s'arrêter là. Donc on a, quel est le mot qui revient de manière un peu systématique. Lumière, Lucie, Luce. C'était surprenant que la présentation de Lucie se tombait ce même jour. Finalement, ce n'était pas prévu au départ que ce soit ce jour-là, et ce n'est pas prévu que ce message vienne aujourd'hui. Et je crois que d'une certaine manière, c'est comme si Dieu dit, hey, y a un petit truc à voir ici. C'est comme s'il mettait une emphase, comme s'il y avait un début de quelque chose. J'aimerais vraiment essayer de communiquer quelque chose qui n'est peut-être pas toujours simple, mais de parler de cette rencontre avec papa. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de cette lumière, il est dit qu'elle portait la vie. Est-ce que c'est juste un éclairage plus ou moins artificiel sur quelque chose? Je ne crois pas que ce soit ça. Est-ce que c'est juste une idée que l'on reçoit? Une compréhension. Je ne crois pas que ce soit ça. Et j'irai pendant très longtemps, je me suis contenté un peu de ça. Mais il est dit que en elle était la vie. En elle était la vie. Tout à l'heure, Sandro nous parlait de quelque chose qui peut se voir. C'est intéressant parce que dans l'iconographie catholique ou même orthodoxe, comment est-ce qu'on représente les personnes qu'on considère comme étant très proches de Dieu? Une auréole. Alors, aujourd'hui, c'est devenu, et c'est normal, on se méfie un peu de tout ce qui est imagerie, mais le principe de base, c'est qu'il y avait ces personnes-là portaient une lumière et que cette lumière était visible, qu'elle était quelque chose qui pouvait émaner d'eux. De la même manière, parfois, on regarde des films où il y a un peu de choses fantastiques. Et si on remarque une chose, c'est que parfois, quand quelqu'un n'est pas bien ou malade, il se passe une espèce de lumière qui descend ou qui émane de la personne. Même le monde comprend que la lumière apporte quelque chose. Et j'aimerais qu'on puisse s'approcher de cette lumière. Pas juste en parler, mais tout doucement commencer à s'en approcher. Et il n'y a pas d'autre endroit pour toucher cette lumière que d'être dans la présence du Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. On ne peut pas l'étudier, on ne peut pas l'apercevoir, on ne peut pas y aller par nos propres forces, on peut oublier tout. Si on n'est pas dans ce lieu de la présence du Père, on ne touche pas cette lumière. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure avec Moïse, sur la montagne, la transfiguration, il y avait Moïse, il y avait Élie, et puis il y avait Jésus. Et il y avait cet éclair qui était là, juste majestueux, cette lumière qui était là. Est-ce que les disciples ont pu joindre cet endroit-là tout seuls? Non. Jésus les a emmenés quelque part, et il les a conduits vers le Père. Et dans ce lieu-là, dans cette présence, le Fils a été révélé, comme jamais il l'avait vu auparavant. Le Fils plein de lumière. Dans Apocalypse 1, c'est pareil. Si vous regardez le passage où on décrit Jésus, c'est juste un être plein de lumière comme un soleil qui est brillant. Et c'est encore pas une révélation qu'il nous est possible d'appréhender par l'intelligence et la connaissance. C'est une expérience qu'on doit faire. Où on marche. On vient rencontrer celui qui est vie. Dans 2 Corinthiens 3, il y a un verset qu'on connaît quand même pas mal, c'est que nous tous, nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Et juste au-dessus, il y a un passage où il est dit que Moïse portait un voile, et ça a déjà été dit. Pourquoi il portait ce voile? Vous rappelez? Non. Ça, c'était au début. 2 Corinthiens 3, de 14 à 18. Alors on va les lire, je crois. C'est verset 13. Verset 13. 2 Corinthiens 3. On va prendre le verset 13. Et ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. À un moment donné, Moïse est monté dans la présence du Père. Il a vécu quelque chose juste d'incroyable. Et la lumière resplendissait. Vous vous rappelez quand il est redescendu de la montagne? Simplement, cette rencontre n'était qu'une rencontre ponctuelle. Et qu'est-ce qui se passait au bout d'un moment? Cette lumière, elle faisait quoi? Elle disparaissait. Et c'est là où, juste après, il nous dit, mais nous sommes transformés. Nous sommes transformés par quoi? Par nos efforts. Parce qu'on vient dans ce lieu de la présence du Père. Et c'est quelque part ce que nous encourageait à faire Timothée ce matin. Donc j'ai retrouvé, comme si Dieu avait placé des jalons dans cette matinée, Lucie, lumière, parole, présence, réunion. Et on continue dans un troisième temps. Et il dit, mais il y a un endroit où on est transformé. C'est quand on vient à la rencontre du Père. Quand on vient à la rencontre de qui il est, lui. Et ça ne peut pas se raconter. Ça ne peut pas s'expliquer. La seule manière de le vivre, c'est de l'expérimenter. Guillaume et Anne-Pascal, son parent, ils savaient ce que c'était des parents avant. Ils en avaient. Ils vivaient autour d'adultes qui étaient parents, qui avaient des enfants. Puis d'un coup, ils sont devenus père et mère. Est-ce que la perception du rôle de parent a changé? Je pense que pour Marion et son époux Thomas, c'est pareil. Pour Alexis et Priscille qui sont là, bienvenue. Je pense que c'est pareil. Quand tu deviens père et mère, quelque chose change. Alors quand tu deviens grand-père, c'est le summum. Là, c'est un autre niveau. Les arrière-grands-pères, pff. Mais il y a quelque chose qui change. Et trop souvent même, pour moi-même, je me suis contenté de ce côté-là. Où j'ai compris plein de choses sur Dieu, même très bonnes, mais je suis resté dans le lieu saint. Et personnellement, je pense que Dieu m'invite de plus en plus à passer au-delà. De ne plus m'arrêter à une connaissance sur Dieu, de lui, de qui il est, du texte, mais de rentrer et de marcher avec lui. Je peux m'émerveiller de tous les trésors de la connaissance qui est dans le texte biblique, mais si je ne rencontre pas lui, alors je n'ai pas grand-chose. Est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Et je vous invite, et c'est où on en revient, ce temps d'être avec, marcher avec Dieu, ce temps de méditation, ce temps de découvrir qui il est. Et on en a un peu parlé parmi nous, ici, quand on a témoigné de ce qu'on a vécu à Toulouse. J'aimerais revenir sur cette méditation, sur cet outil qui est juste incroyable. Vous savez, quand on m'a présenté cet outil, j'ai fait, bon, je connais. Qui c'est qui n'a jamais médité la parole de Dieu? Ça peut arriver. Personnellement, ça fait 30 ans qu'on est dans l'église, qu'on est arrivé en crise dans les années 90, donc une trentaine d'années. J'ai conduit des méditations, j'ai médité avec les enfants. Le fait d'être dans une écoute intuitive ou inductive de la parole, je connaissais. Mais je me suis rendu compte que d'une manière ou d'une autre, au bout de 30 ans, est-ce que dans tous ces textes où j'ai appris des choses sur Dieu, est-ce que j'étais vraiment toujours en contact avec lui? Et si ça c'est pas vrai, alors c'est que d'une manière j'étais en surface. Et c'est peut-être bien ce qu'il fallait faire pendant un temps, je dis pas qu'il faut pas commencer par là. Mais je me suis dit, mais si je suis resté en surface, alors je suis resté superficiel. Peut-être c'est un mot dur, mais... Je pense qu'on a quelque chose à vivre en plus. Quand il est dit que goûter, venez goûter, voir si l'Éternel est bon, est-ce que c'est juste un mot ou c'est une réalité qu'on peut vivre? Est-ce qu'on goûte à l'Éternel? Est-ce qu'il y a ce moment de communion avec lui qui fait que tu goûtes et tu dis, waouh, ça c'est juste top, le reste ne m'intéresse plus. Ce n'est pas juste une métaphore, c'est une réalité. Quand quand on vit dans ces moments-là, c'est comme dans le Cantique des Cantiques. Vous savez, si on peut afficher Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Il a dit, mais tu me mets comme un sot. C'est comme si on a été marqué d'une manière complètement différente et nouvelle. Et pardon Chloé, je te fais chercher plein de versets. Hein. Je vais donner toute une liste et en plus j'en prends d'autres. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme les séjours des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Quand tu es comme un sceau sur le cœur de l'Éternel, tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs si tu y es. Et moi, j'aimerais m'engager sur ce chemin-là. J'en suis juste au début. Et j'aimerais rencontrer cette lumière un peu plus souvent que juste une fois, ponctuellement. Et faire comme Moïse, à un moment donné, passer d'une révélation à une autre, mais quelque chose qui est devenu passager. Et du coup, quand on voit cette lumière qui est là, qui est plus qu'une idée ou un concept, mais tu es comme une matière tangible qui apporte la vie. Tous les versets avec la lumière commencent à s'éclairer complètement différemment. Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire que cette lumière de vie s'approche de toi et te remplit. Cette lumière s'approche de toi et te remplit. J'aimerais juste partager deux choses, parce que je les ai bien écrites celles-là et c'est démontré fort pour moi dans ce temps de prière, la TDR. Donc c'est aussi une manière de dire, on vous invite de manière pressante à venir à la maison de prière. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas être tout le temps là, mais je vous invite à venir à cette maison de prière, à vivre ces temps avec l'Éternel, à prendre ces temps où on médite quelque chose et Dieu se révèle dans ce petit texte, dans ces deux paroles. Je vais reprendre un verset, un passage qu'on avait médité le 27-11, psaume 91. Et dans ce psaume 91, j'avais juste médité ce passage, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça, c'est le texte de méditation. Dans ce texte, il s'est passé juste cette rencontre avec lui. C'est lui, je vais relire simplement ce que j'avais écrit à l'époque. C'est lui, pas moi. C'est lui, pas moi. C'était comme dans un carcan, comme dans une cuirasse noire. Mais là, c'est comme une nouvelle naissance. Comme une arrivée dans la lumière après une longue captivité. Les tonnerres de l'Éternel qui annoncent avec puissance, avec gloire, qu'il est le Rédempteur. Il est le Sauveur puissant, qui ébranle les murs des prisons. Je vois la lumière, je vois la lumière. Les chaînes sont retirées, les portes du séjour des morts ont été vaincues. Ébahissement, étonnement, incrédulité. Joie, liberté, est-ce possible? Moi, maintenant? Armée décimée, geôle détruite, gardien chassé. Juste pour moi? Je passe de l'indignité à la dignité, du rêve de liberté à la réalité, à la substance de la liberté, de la présence du Seigneur. L'Éternel, le chef des armées, est là, grande épée à la main. Il met son honneur dans ses combats, dans ses délivrances, de la fosse à la maison du Père, à sa table où tous écrit gloire. Enfin, enfin, mon fils. Enfin, des abyssales, la captivité, de la mort, le dit reçoit, reçoit la vie. Confiance, assurance, bien-être, bien-être, repas de fête, joie, danse. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseur. Soif, soif de vie, soif, soif, abreuvé au tonneau, torrent de vie, désaltéré, libre, digne à nouveau, libre de courir, de danser, de voler, libre de voler, mais si bien à la maison. Capturé, mais délivré, et maintenant captivé. Prisonnier, libre, mais enlacé. Enfermé, mis au large, intimité. Indigne, digne, aimé. Quelque chose que j'ai vécu, pas juste quelque chose dont je parle, parce que j'ai compris quelque chose. Et je peux revoir exactement le moment où Jésus est là, comme dans ces films. On voit le grand guerrier qui est là, qui dépasse tout le monde d'une tête, et tu vois toutes les autres armées, tout est chamboulé. Il y a quelque chose de différent de comprendre qu'est-ce que Jésus est un sauveur que de le vivre. Alors chacun a ses prisons, chacun a ses geôles, chacun a ses défis, ses indignités. Jésus est venu me sortir de là où j'étais. Au bout de 30 ans, j'ai encore besoin de ça ? Ben oui. Et je veux m'engager dans ce chemin, et je voudrais nous engager dans ce chemin. On va plus loin et on va dans ces rencontres avec l'Éternel. Et juste un autre témoignage, un autre moment vécu aussi. On imitait un autre psaume, mais il y avait juste quelque chose d'extrêmement fort. Et c'était les sons de la voix de l'Éternel. Je vais passer sur toute la première partie où il y avait ces sons de l'Éternel qui étaient là, parce que je crois qu'il y a un son pour la France qui doit monter, les sons dans les nations qui doivent monter. Et là, Dieu m'emmenait dans ces salles où il y avait des trésors de sons qui étaient là, et je voyais ces sons commencer à sortir, et c'était juste magnifique, des mémoires. Et j'ai dit, mais pourquoi, comment ça se fait que moi je suis là pour voir ça? Je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un adorateur dans le sens avec le son. Et c'était juste incroyable d'être là et d'observer ces immenses salles, et puis ces sons sortaient comme avec des lumières multicolores. Ça fait un peu film tout ça, mais tant pis. Et il y avait tous ces sons qui sortaient. Et j'étais un peu fasciné par ce que je voyais. Ça, c'était juste incroyable. Les sons s'échappent de l'abîme et c'est juste incroyable. Et puis à un moment donné, alors que j'étais là, je me suis dit, mais il y a un souci. C'est comme si quelque chose commençait à manquer. Le Père qui m'avait emmené dans ces salles avait continué son chemin. Et moi, j'étais resté dans ces salles. Et je dis, oups, je ne suis pas intéressé par toute la connaissance de tous les sons, les trésors qu'il peut y avoir, même dans le ciel. Si lui n'est pas là, alors je n'ai plus rien. Et c'est là que je voudrais nous emmener. Et c'est comme s'il dit, non, je me suis détourné de ce que je voyais pour aller chercher le Père. Et c'est là où, tout doucement, alors que j'arrivais dans cet endroit-là, il y avait cette image qui est venue. Je recevais comme des nouveaux habits de sacrificateur qui étaient en chemin, que je n'avais pas encore entièrement revêtu. J'étais dans le processus. Et c'est encore une fois là où je voudrais nous emmener. J'aimerais moins partager quelque chose sur Dieu que de permettre de rencontrer lui, d'aller au-delà du voile. Et je pense qu'une des manières de faire, c'est de devenir ses sacrificateurs. Parce que seuls les sacrificateurs s'approchent jusqu'au bout du bout du bout. D'être constamment dans sa présence, c'est le travail du sacrificateur. Rappelez-vous, dans le temple, dans la maison de l'Éternel, les sacrificateurs rentraient dans cette maison. C'est eux qui étaient au service. Et dans ce temple, tabernacle de David, ils étaient là, jour et nuit, des centaines. Et ça a changé la destinée de la nation. En une génération, ce pays qui était en guerre contre tout, même quand il y avait Samuel, a agrandi toutes ses limites, tout son territoire. Je crois que Dieu est en train de lever les sacrificateurs qui marchent en sa présence, qui vont voir sa lumière, qui vont être des porteurs de lumière, qui vont grandir dans le lieu saint. Et ils vont vivre dans le lieu très saint. On est appelé à aller au-delà du voile, au-delà du voile. Et je parle. Et cette expérience tellement grande à vivre, c'est pas juste pour un ou pour deux, c'est pour beaucoup. C'est un peu de ça quand dans Hébreu il est parlé, quand dans Hébreu 6, il est dit à un moment donné, on parle au début des fondements de la parole qui ont été posés, puis à un moment donné, verset 4, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Après, on parle du fait que pour eux, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Mais ce n'est pas juste quelqu'un qui a découvert quelque chose sur Dieu. Ils ont été éclairés par la vie elle-même. Ils ont goûté à cette présence du Père. Il y a eu cette part avec le Saint-Esprit. Ils ont goûté à la bonne parole et de Dieu et des puissances des siècles à venir. Ils ont goûté à quelque chose d'absolument immense. Et certains peuvent se retourner. Et Hébreux 10, versets 32 et 34. Et on parle de tout un passage où, je ne vais pas relire tout le contexte, mais verset 32, c'est peut-être le plus important. Relisez le contexte chez vous si vous voulez. Chapitre 10, c'est intéressant ce qu'on parle de le fait que ceux qui méprisent un si grand salut. Et quand on parle de salut, c'est cette vie abondante, cette rencontre avec la lumière, cette rencontre avec le Père. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Encore une fois, c'est cet éclairage, cette vie dans laquelle tu viens, où tu rencontres le Père. Et quelque chose se passe. Ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas juste une nouvelle idée. Tu vois, souvent, alors comme beaucoup, le texte biblique, moi je voyais les connexions, ce qui se faisait, c'était juste. Mais je suis passé de là à la rencontre du Père. Et c'est là où je voudrais encore une fois m'engager. Cette année en tout cas, j'aimerais aller plus loin là-dedans. J'aimerais poser ça comme une invitation pour cette année, pour chacun d'entre vous. Comme l'a dit Timothée tout à l'heure, quelque chose où on voudrait pouvoir aller plus loin, s'engager. Alléluia. Papa, je prie maintenant de venir encore toucher les uns et les autres. Cette manière dont tu as eu de me toucher, encore tout récemment, c'est juste un cadeau incroyable. Ce n'est pas juste une connaissance de plus que tu as ajoutée, un livre de plus, un verset de plus, mais c'est toi-même qui t'es donné, qui t'es approché. C'est cette lumière juste ineffable, cette lumière de vie qui transforme toute chose, qui fait que ce qui était indigne devient digne, que ce qui était fatigué se réveille. Papa, je voudrais que tu puisses nous emmener là, tous. Tous les uns avec les autres. Qu'il y ait ce chemin de lumière pour chacun de nous. Je te prie pour l'huile de nos lampes. Qu'elle continue à brûler. Qu'elle puisse grandir. Qu'elle ne vienne pas comme quelque chose qui s'efface. Qui tout doucement disparaît. Mais toi, tu allumes une lampe pour qu'elle puisse être vue. Tu ne la mets pas sous le boisseau. Tu ne permets pas qu'elle s'efface, mais tu permets qu'elle puisse continuer à briller. Et tout à l'heure, tu disais, mais c'est lui qui te délivre. Papa, viens nous délivrer. Je ne peux pas me délivrer moi-même, et toi, tu peux nous délivrer de toutes nos conceptions fausses sur toi, de toutes les barrières qui nous empêchent de te rencontrer. Tu m'as sorti de cette geôle d'incompréhension et tu m'as emmené là. Ce que tu as fait pour moi, je veux pouvoir le libérer là, au milieu de toute ton assemblée. Que là où il y a les liens qui soient, les geôles sont tombés, je veux libérer cette puissance qui a été libérée ce soir-là. Ces murs qui ont tremblé, le Rédempteur qui était là et qui a délivré, où les geôles ont été anéantis, les portes des prisons cassées.
Je veux libérer cette puissance de vie. Alléluia. Et que chacun puisse sortir de ses cachots. Je prie pour ces rencontres avec toi qui changent les vies de quelqu'un. Pas juste une connaissance de plus, mais une vie qui change. Et donne-nous cette grâce de marcher en communauté tous ensemble. Alléluia, Papa. Dans le nom de Jésus, Père, je prie. Amen. Je sais que plusieurs peuvent dire, mais je peux faire ça à la maison. La communauté est aussi là pour nous aider à grandir les uns avec les autres. Et j'ai besoin de la communauté pour grandir. J'ai besoin de la communauté. Je vous invite à, donc c'est pour ça que je vous invite tellement à venir à ces temps-là. Pas parce qu'il faut, mais parce que c'est un endroit où on s'aide les uns les autres à aller dans cette présence du Père. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Manuela ? Mercredi soir, 19 et 21h. Il y a d'autres, les fréquenteries de l'atelier, il y a d'autres créneaux. David a commencé à mettre d'autres créneaux. Viens, venez parler, Manuela et Luc et David, vous dire deux fois mots.
Oui, je vous y invite, comme dit Vito, c'est vraiment, on veut laisser transformer nos vies. Il y a plusieurs créneaux.